Je crois qu'on est beaucoup plus prêt aujourd'hui à choisir des personnalités issues de l'ancienne Allemagne de l'Est. Bon, peut-être qu'au lendemain de l'unification, cela aurait été plus difficile parce que la confiance n'existait pas encore totalement. Et maintenant, il y a un regard autre porté par la société ouest-allemande sur ce qu'on peut vivre ces gens et qui est perçu comme maintenant une richesse parce qu'ils ont aussi souffert dans leur propre chair, dans leur propre famille. Le père du nouveau président a été victime de poursuites sous le régime communiste et cet homme incarne un rapprochement des deux parties de l'Allemagne, incontestablement.
Est-ce qu'on peut dire qu'encore aujourd'hui, comme l'a dit la chancelière, il n'y a pas une union complète entre les deux anciennes parties de l'Allemagne ?
Je crois que c'est un défi qui reste à relever, puisque en matière économique, en matière sociale, en matière de culture politique et même de comportement électoral, il existe encore des différences très très fortes. Par exemple, lors des élections, les grands partis traditionnels, CDU, CSU d'un côté et Parti social-démocrate, SPD de l'autre, font généralement de moins bons scores à l'Est qu'à l'Ouest, parce qu'ils sont perçus encore aujourd'hui comme des forces importés en fait de l'Ouest, voyez-vous. Bon, on pourrait également mettre en avant les différences économiques. Le taux de chômage est encore beaucoup plus élevé à l'Est qu'à l'Ouest.
Angela Merkel et lui incarnent tous les deux ce qu'on appelle la génération 89. Comment la décrire cette génération ?
C'est une génération qui d'abord n'est pas idéologue. Tous les deux ne sont pas des gens qui sont des hommes d'appareil. Alors évidemment, après, ils ont dû exercer des fonctions de parti. Mais ce sont des gens qui ne sont pas fixés idéologiquement. Il ne faut jamais oublier, par exemple, que Mme Merkel, en 1989, avant de rentrer dans un parti politique, la CDU, elle est allée aux réunions des autres partis politiques. Vous voyez, comme ce n'était pas un choix arrêté d'avance. Bon, c'est une vraie force. Ce sont des gens qui ne sont pas attachés par-dessus tout à un appareil. Donc ils entendent incarner plutôt une vision de l'Allemagne.
C'est donc un pasteur qui a été élu. Quel changement cela peut-il apporter à un poste qui normalement est occupé par des personnalités de l'Ouest?
Le fait qu'il soit pasteur correspond aussi à une réalité politique. C'est-à-dire que lors des événements de 1989, chute du mur de 89, les pasteurs ont joué un grand rôle en Allemagne de l'Est. Beaucoup d'entre eux étaient dans une semi-opposition au régime communiste d'Allemagne de l'Est. Certains ont même subi de l'emprisonnement, ont même été condamnés. Donc les pasteurs étaient en quelque sorte des élites intellectuelles de l'Allemagne de l'Est. Ce sont des gens, ils ont un regard de l'histoire et un attachement par exemple à tout ce qui a trait aux droits de l'homme, à la liberté d'expression, liberté de la presse, des médias, bon, extrêmement forte. Parce qu'ils ont souffert de cette absence de liberté lors de leur sociologisation politique à l'Est. Bon, donc c'est vrai que ce nouveau président, avec un profil différent, va sûrement incarner d'autres valeurs.
Donc nous avons maintenant deux personnes de la RDA à la tête de l'Allemagne. Est-ce que ça va changer quelque chose pour la politique allemande ? Est-ce que ça va faire qu'elle sera par exemple plus sensible aux problèmes de l'Est ?
C'était déjà manifeste avec l'arrivée de Mme Merkel à la chancellerie, puisqu'on avait longtemps reproché à son prédécesseur de négocier entre guillemets avec les grands, hein, Moscou notamment, Washington, Paris, et de négliger les petits d'Europe de l'Est. Et c'est vrai que les Allemands originaires de l'Est ont une sensibilité particulière à tout ce qui est Europe centrale. C'était visible à travers Mme Merkel, qui a toujours soigné, par exemple, les relations avec la Pologne. Donc on sent bien que là, c'est en matière de politique étrangère, une élection qui pourrait avoir une incidence.